Mesdames et messieurs, bonsoir et bon début de week-end chez vous. Nous sommes vendredi et nous parlons des enjeux des élections provinciales en RDC. Ce soir, nous vous amenons dans deux provinces, l'une à l'est et l'autre à l'ouest de la République, à savoir le Maniema et le Bandundu. Et les questions auxquelles Dialogue entre Congolais va apporter des réponses ce soir sont: quels sont les problèmes spécifiques du Maniema et du Bandundu? Quelles ressources vont être mobilisées pour résoudre le problème de ces deux provinces? Les invités de cette émission sont Simon-Pierre Iyananio, vicaire général du diocèse de Kasongo. Il intervient dans la première partie de cette émission pour le compte donc de la province du Maniema. Bonsoir. Et nous serons dans la deuxième partie de cette émission pour le compte de la province du Bandundu avec Denis Impiti, secrétaire exécutif du conseil régional des ONG de développement du Bandundu, à qui nous disons bonsoir en direct de Kikwit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de commencer cette émission sur les enjeux des élections provinciales en RDC, nous allons d'abord accorder un droit de réponse à Monsieur Romain Nini, qui est le secrétaire national chargé des réformes au MLC. En effet, le mouvement des libérations du Congo a demandé à réagir aux propos du secrétaire général du PPRD du 2 octobre dernier au cours d'une émission Dialogue entre Congolais consacrée à l'alliance AMP-PALOU. Monsieur Vital Kamere avait déclaré sur nos ondes, je cite, « Je sais que le RCD, pour le moment, s'il voudrait récupérer un tant soit peu son honneur, ils doivent tout de suite et maintenant dire à Monsieur Kunda Batware, qui est l'officier du RCD et qui bat actuellement campagne pour Jean-Pierre Bemba, de cesser de le faire puisqu'il tue le Congolais à l'Est. Voilà ce que je dois lui demander au lieu de nous distraire ici. » Fin des citations. Nous accordons donc une minute de droit de réponse au secrétaire national chargé des réformes au MLC, M. Romain Nini, que nous vous invitons à suivre.
Non seulement cela n'est pas vrai, mais cela constitue une diffamation qu'il arrête de distraire l'opinion en voulant falsifier les faits, en voulant trafiquer la réalité. La réalité, c'est que sa famille politique a été incapable de mettre hors d'état de nuire les Interahamwe, qui sont des forces indésirables au Congo. Donc, nous ignorons totalement le fondement de ces propos, que nous trouvons tout à fait fantaisistes et qui nous choquent. Ce qui importe dans cette partie, c'est une pacification réelle du territoire. C'est une volonté de mettre fin aux spoliations, aux prévarications, aux menaces qui sont en train de terroriser la population. Nous nous portons donc en faux contre ces affirmations fantaisistes qui ne visent qu'à tromper, comme d'habitude, l'électorat de l'Est.
Voilà, et poursuivons maintenant avec notre émission de ce jour. Bienvenue à vous tous qui suivez en ces moments cette émission consacrée aux enjeux des élections provinciales dans les provinces du Maniema et du Bandundu, élections qui vont se dérouler le 29 octobre prochain. Et ce soir, nous commençons par la province du Maniema où nous avons comme invité Monseigneur Simon-Pierre Iyananio, vicaire général du diocèse de Kasongo. Encore une fois, bonsoir monsieur le vicaire général. Et d'emblée, brièvement, avant que nous entrons dans le vif même de ces sujets, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez des élections provinciales prévues pour le 29 octobre prochain?
Pour nous, comme Église, nous avons clairement défini à partir de la conférence épiscopale du Congo les objectifs qu'on a donnés aux élections, essentiellement la restauration de l'autorité de l'État, ce qui permettrait une bonne gouvernance et en conséquence un développement intégré qui respecte les droits de l'homme, surtout les plus faibles. Et donc l'espoir pour nous aussi au niveau provincial, c'est que nous puissions arriver à une bonne gouvernance au niveau de la province du Maniema, avec comme dividende le respect des droits humains et le développement intégré.
Donc, c'est parmi les défis à relever par les députés provinciaux qu'on va élire bientôt dans la province du Maniema. Alors, nous allons revenir à vous, mais voyons d'abord quels sont les autres problèmes propres à cette province, où on peut déjà citer les problèmes récurrents de manque d'électricité, d'eau potable pour la population, le manque d'infrastructures routières et d'industries de transformation, et aussi des grandes entreprises d'extraction des minéraux. Et suivant donc cet entretien entre Mami Aleli Tshibangu et notre consoeur Babel Mpongo.
La province du Maniema était le grenier économique des provinces qui lui sont frontalières. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce grenier?
Jadis, dans la province du Maniema, qui a des limites avec les nord et les sud Kivu, la province orientale, les Katanga et les Kassai orientales, fournissaient du riz, des huiles de palme, du maïs et des arachides à ces provinces, et même à la capitale, qui est Kinshasa. Actuellement, rien ne marche plus dans ce sens. Par manque d'infrastructures routières et ferroviaires, la production bien qu'artisanale des denrées alimentaires est en baisse car leur évacuation pose problème. En ce qui concerne les riz par exemple, toutes les riseries qu'on pouvait retrouver, notamment à Samuel, Kassongo, Amaz, à Kampene, à Kipaka et partout ailleurs dans d'autres territoires, n'existent plus. Un autre sérieux problème est le travail au ralenti du trafic ferroviaire. Les trains reliant le Maniema au Katanga est irrégulier et pendant les 5 années de guerre, il a été même inexistant. Cause principale, l'absence d'industrie extractive, comme jadis, Simetan, Sofolac et Kobel, mais transformées toutes en 1976 en une seule appelée Somenki et qui d'ailleurs n'existe plus. D'où l'exploitation des cassitérites, diamants et de l'or au Maniema est devenue artisanale avec une faible production, ce qui ne permet plus au train de remplir ses wagons au départ de Kindu. Notons également, Babel, que les industries de bois, c'est-à-dire les scieries et celles de coton, n'existent plus. Par exemple, le bois de Lubao et Lubelengue qui est exploité et acheminé par train au Katanga pour Dar es Salaam pousse librement aujourd'hui et embellit la forêt car il n'est plus inquiété par le bruit de la scie.
Mais en dehors de cela, Mami Alili, quel autre problème se pose à la province du Maniema?
La province n'est pas électrifiée malgré l'existence de la SNEL qui travaille difficilement par manque de carburant pouvant alimenter les groupes électrogènes. Le manque d'électricité constitue aussi un blocage pour le développement de cette province qui égorge d'énormes potentialités. Signalons en passant qu'un projet a été mis sur pied pour électrifier seulement la ville de Kindu, mais pas tous les territoires de la province, qui vivent dans les noirs d'ailleurs. Mais Babel, comme nous le disons, cela n'est qu'à l'étape de projet qui depuis 2 ans traîne à se concrétiser.
Est-ce là tous les problèmes que connaît la province du Maniema?
C'est pas tout, Babel. Nous devons souligner que le chef-lieu de cette province, qui est Kindu, fait face à la carence d'eau potable. Vous comprendrez alors que les habitants des 7 territoires de l'intérieur aussi recourent à l'eau des sources non aménagées et celles des puits, sources des maladies d'origine hydrique. Sur ces faits, nombre de nos auditeurs peuvent se poser des questions sur l'existence de la régie des eaux. Certes, cette régie existe, mais par manque du courant à Kindu et au Maniema, plusieurs entreprises ont du mal à fonctionner comme il se doit, car elles doivent se procurer du carburant toutes les fois qu'elles voudraient bien satisfaire les habitants, chose qui n'est pas facile avec l'enclavement de la province.
Voilà, Monseigneur Simon Pierre, c'est là une panoplie donc des problèmes même de la province du Maniema. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la situation en est arrivée à être dégradée de cette façon-là?
Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est pas une fatalité, c'est le résultat de plusieurs erreurs économiques et politiques des années passées. Mais il faut surtout noter ici que le Maniema, c'est parmi les provinces qui sont à l'intérieur du pays, contrairement au sud Kivu, au nord Kivu, qui sont à la frontière. Et la caractéristique, justement, dans ces pays, c'est que ceux qui sont à l'intérieur du Congo, ils sont souvent les plus oubliés. Et c'est comme ça que, avec la rupture du chemin de fer, avec aussi la rupture du trafic entre Kindu et Kisangani par bateau, eh bien, nous en sommes arrivés à nous débrouiller, à vivre plus ou moins des herbes, nous soigner des herbes. Et ça, c'est le plus grand défi qu'il y a. Ça veut dire nous avons été abandonnés à notre propre sort et c'est la débrouillardise qui a pris le dessus sur la gouvernance, quoi.
Donc, selon vous, tous ces problèmes relèvent de l'irresponsabilité même de l'État. Mais n'y a-t-il pas une part de responsabilité, par exemple, des citoyens même ou des habitants de la province du Maniema?
Ouais, ben tout ça, il y a toujours les causes, mais parmi les causes, il y a la principale. Et ici, ce qu'on doit faire, c'est différencier les causes et les effets. Donc, ce qu'on vient de dire là, ce sont les conséquences. Mais la cause principale, c'est en fait l'absence de gouvernance. Et donc, le grand problème que nous avons, c'est le fait qu'il n'y ait pas une politique de développement au niveau provincial depuis des années, ce qui a fait que, ben évidemment, les gens, ils se débrouillent pour faire les ponts, pour faire les caniveaux, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais quand vous avez une province qui a plus de 100 000 kilomètres carrés et où les gens, ils doivent chaque fois tirer les rongerons sur 20 kilomètres, 10, 5, tirer à la main, et puis il n'y a pas de circulation des véhicules parce que le pont qui est à 100 km est coupé, ben, ça finit par décourager les gens. Tout le monde jette l'éponge. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ça.
Oui, vous dites que ça finit par décourager les gens. C'est la même préoccupation des habitants du Maniema qui se plaignent également de cette situation de délabrement total de toutes les infrastructures au Maniema, suivant le dans ce micro-trottoir.
Les routes, finalement, il faut réhabiliter des routes pour que notre province soit réélue, soit désenclavée.
La province du Maniema, c'est une province vraiment qui est en dessous de la moyenne.
L'infrastructure pour permettre aux gens de l'intérieur d'évacuer leurs produits vivriers au chef-lieu de la province.
Il faut ouvrir les routes, aménager les ponts qui étaient déjà détruits.
N'importe quel domaine du développement qu'on peut faire dans la province du Maniema, pour désenclaver un peu la province du Maniema, il faut qu'on oriente l'économie de la province du Maniema dans l'agriculture.
Mais non, moi, je suis allé chez Manzi, je suis allé à l'intérieur, je suis allé à Wapiata, je suis allé à 500 km, je suis allé à ma moyenne, je suis allé à Manzi.
Voilà, et avant même de vous passer la parole, Monseigneur Simon Pierre, il y a un habitant qui a parlé en swahili et qui parle aussi en faveur de la réhabilitation même des infrastructures routières, surtout celles des dessertes agricoles. Alors, pensez-vous que les députés provinciaux qui seront prochainement élus pourront apporter des solutions à ces problèmes? Et si oui, de quelle façon?
Oui, mais c'est pour ça que nous faisons les élections. Autrement, on n'en ferait pas. Nous croyons fermement que les élections vont apporter un début de solution. Comment? La première chose, je crois, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et quand on dit restaurer l'autorité, c'est pas jeter les gens en prison, c'est pas d'abord ça. C'est-à-dire, l'État doit prendre en charge le social, organiser la vie des gens. Il faut qu'il y ait une loi et que la loi soit respectée. Il n'y a pas que la loi contre les voleurs, contre les brigands. Il y a la loi financière. Il faut qu'il y ait un budget et que ces budgets soient exécutés suivant les normes et suivant les critères de gestion. Et c'est pour
Mais
ça
il faut que... également des moyens parce que on ne peut pas parler de tout ça sans qu'il y ait développement économique quelque part. Il faut des moyens pour ça. Où les députés provinciaux pourront tirer des ressources pour amener, par exemple, le Maniema à se développer?
Mais le Maniema n'est pas pauvre. Le Maniema, au contraire, a beaucoup de potentialités. Les gens qui ont parlé tout de suite, ils ont parlé des mines. Mais le Maniema, c'est parmi les réservoirs des mines qu'il y a au Congo.
Oui, parlons-en et effectivement, parce que nous nous sommes également penchés sur cette question pour voir quelles sont les ressources du Maniema. Et je vous invite donc à suivre cela dans ces résumés réalisés par notre confrère Claude Quinza.
D'une superficie de 132 250 km², la province du Maniema dispose de potentialités variées, aussi bien dans l'agriculture que dans l'exploitation minière. Cependant, la force de cette province réside beaucoup plus sur les gisements de minerais. Tenez, on y trouve par exemple l'or dans les territoires de Pangui, Lubutu, Punia et Kailo. Le diamant est à Kabambare, Lubutu et à Punia. La cassiterite est présente à Punia, Kailo, Kalima et Kampene dans les territoires de Pangui, tandis qu'à Pangui toujours, à Kailo et à Punia, le coltan y est aussi présent, sans oublier de signaler l'existence dans cette province des gisements du wolframite et du fer. Mais les atouts de la province du Maniema ne se limitent pas seulement dans les secteurs miniers. L'agriculture occupe une position non moins importante. On y plante le riz, l'arachide et le manioc. Mais il faut aussi signaler la culture du coton à Samba. Un autre atout à ne pas négliger, ce sont les frontières du Maniema avec 5 provinces du pays. La province du Maniema étant située presque au centre de la RDC, a des limites au nord avec la province orientale, au sud avec le Katanga, à l'est avec les provinces du nord et du sud Kivu, et à l'ouest avec le Kasai oriental, ce qui est très important dans le cadre des échanges avec les différentes provinces frontalières.
Voilà, ce sont là les atouts, comme on peut le dire, de la province du Maniema. Est-ce que vous pensez qu'à partir de ces ressources, le Maniema pourrait arriver à se développer?
Oui, mais il faut considérer que les atouts sont aussi les raisons de notre blocage. C'est comme pour le Congo. Plus on découvre des minerais, plus le pays est déstabilisé et envié. Il en est de même pour la province du Maniema. Vous parlez des mines. Mais nous avions une grande société minière qui s'appelle la Somenki. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? La Somenki est tombée en faillite, on l'a liquidée d'une manière cavalière, on a jeté dehors tous ces travailleurs sans indemnité de sortie, et aujourd'hui, on est en train d'assister à un découpage de l'ancienne société en des petites sociétés, je n'ose pas dire mafieuses, mais en tout cas, dont la population n'attend pas grand-chose. Et donc, au lieu d'être un atout, ça risquerait de devenir encore une raison de pillage, d'exploitation. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut restaurer l'autorité de l'État pour que l'État puisse protéger les intérêts de la population et que ceux qui exploiteront les mines puissent savoir qu'ils sont liés par des obligations sociales.
Oui, Monseigneur Simon-Pierre, la nouvelle constitution donne quand même un poids aux futures institutions provinciales. Par exemple, il est question que les provinces gèrent 40% des recettes qui proviendraient bien sûr des impôts et des taxes qu'on pourrait percevoir sur, par exemple, plusieurs activités économiques. N'est-ce pas là un des moyens pour ce futur élu de répondre aux préoccupations de ses habitants que nous venons, par exemple, de suivre?
Oui, c'est déjà un début. Mais dans ces pays, ce ne sont pas les textes qui manquent. On a eu des textes et le problème, c'est l'application des textes. Et nous sommes convaincus justement que on peut voter, on peut installer un parlement provincial. Mais si ce parlement n'a pas le pouvoir dévolu à un parlement, si ce parlement n'arrive pas à interpeller le gouvernement provincial et peut-être aussi le gouvernement national, eh bien, nous allons assister à ce qui a toujours été, c'est que vous avez des textes d'une part, et d'autre part, vous avez des messieurs et des dames qui font ce qu'ils veulent parce que, de toute façon, la population ne peut rien leur demander.
Alors, peut-être que vous avez des propositions. Comment sortir de cette impasse-là que vous venez de nous décrire maintenant-là?
Mais pour sortir de cette impasse, nous pensons qu'il faut réellement faire des élections, que ces élections soient libres et démocratiques et que le pouvoir soit issu du peuple pour que le peuple puisse aussi lui demander des comptes. Mais la deuxième chose et la plus importante pour moi, c'est que la population du Maniema puisse s'approprier ces processus et qu'on considère que le développement du Maniema ne se fera pas d'en haut, mais d'en bas. Et c'est pour ça que une fois que le Parlement sera installé et le gouvernement provincial installé, il faudrait qu'il y ait des mesures permettant à la base de pouvoir se prendre en charge, donc des mesures incitatives pour les commerçants, pour les associations, des protections aussi pour les investisseurs éventuels, pour que le travail se fasse au niveau de la base et que les dirigeants ne soient là que pour accompagner, au lieu d'être là pour faire tout. C'est pas possible. Et ce qui nous a tués, c'est un peu ça. C'est qu'on ne donne pas la parole à la population, on décide, on oriente sans tenir compte de ce qui se fait réellement dans les villages.
Oui, mais est-ce que vous pensez que les députés qui seront élus pourront se montrer vraiment capables d'amener, par exemple, le Maniema à se développer, surtout si on sait que bon, chaque fois qu'on nomme quelqu'un à la tête de telles institutions, il y a des corruptions, on décrit également les détournements des deniers publics. Quelle garantie finalement?
Oui, vous savez, notre grand défi, nous les Congolais, c'est la confiance. C'est que nous n'avons pas confiance entre nous. Il n'y a plus de confiance entre la population et les institutions. Il en est de même pour la province du Maniema. Mais l'espoir, pour nous en tout cas comme Église, c'est que en travaillant comme nous le faisons dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté, nous essayons justement de faire en sorte que la population comprenne qu'il ne faut pas dire « je n'entre pas dedans, je les laisse faire ». Non, il faut que le peuple se lève et qu'il puisse poser des questions lorsqu'il le faut. Et donc, pour ça, il faut arrêter de privatiser la politique. Et parce qu'à un moment donné, les questions politiques ne pouvaient être traitées qu'entre politiciens. Mais si la population ne s'approprie pas ces questions-là, eh bien, il sera difficile de restaurer la confiance. Et donc, la machine de développement va être bloquée.
Est-ce que les électeurs du Maniema devraient tenir compte de tous ces enjeux-là dans le choix de leurs députés provinciaux?
Oui, je pense. Et la première chose, c'est de voir, on élit quelqu'un pas en fonction de son visage, pas en fonction de sa tribu. Nous voulons des députés qui soient, un, des rassembleurs, deux, des gens qui savent pourquoi ils demandent les voix des électeurs, et trois, qui acceptent le contrôle, dans la mesure où celui qui n'aura pas répondu aux attentes, il faudra qu'il accepte de ne plus être voté, quoi.
Merci, Monseigneur Simon-Pierre, pour ces éclairages. Maintenant, nous allons nous rendre à l'ouest de la République, dans la province du Bandundu. Nous vous gardons cependant pour votre réaction aux opinions des auditeurs à la fin de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-8-999-222.
Et rejoignons donc notre invité en direct de Kikwito Bandundu, Denis Impiti. Il est secrétaire exécutif du conseil régional des ONG de développement du Bandundu. Bonsoir, monsieur Denis Impiti.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Alors, en quelques mots, dites-nous si les habitants de la province du Bandundu comprennent les enjeux de ces élections provinciales prévues pour le 29 octobre prochain, au regard même de la campagne qui se déroule en ce moment-ci, nous le supposons à Kikwito.
La population comprend bien les enjeux parce que tu vois les degrés de pauvreté que cette population est en train de connaître maintenant. Et au vu de la loi qui considère les provinces comme des entités administratives décentralisées et à qui on a confié une partie du pouvoir pour gérer, qui ont une certaine autonomie dans la gestion des ressources du pays. Alors, la population comprend qu'au niveau de la province, il ne faut pas envoyer n'importe qui, il faut trouver des gens capables et qui peuvent trouver solution aux problèmes qui se posent dans la province.
Merci. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, comme nous parlons donc des élections provinciales et des défis qu'auront à relever les futurs députés provinciaux de la province du Bandundu. Voyons en effet quels problèmes connaît cette province et découvrons tout ça dans cet entretien entre Thérèse Kankou et notre confrère Fabien Kambizi depuis Kikwito. Fabien Kambizi, bonsoir.
Bonsoir Thérèse.
Pouvez-vous nous dire, Fabien, quels sont les problèmes majeurs de la province du Bandundu?
Oui, et Thérèse, en général, la province de Bandundu est butée au problème des manques d'eau potable, de l'énergie électrique et aussi les infrastructures routières en très mauvais état, ce qui fait que beaucoup de produits agricoles traînent en brousse.
Il semble aussi, Fabien, que dans la province de Bandundu, il y a un problème de chômage. Qu'en est-il?
Oui, justement, depuis la disparition des industries houillères vers les années 88 et 91, la province de Bandundu connaît aujourd'hui une grande augmentation des chômeurs. Vous savez que les huiles de palme dans la province de Bandundu faisaient la fierté vraiment de cette province. Donc, c'était l'huile de palme était la seule économie qui vraiment représentait notre province de Bandundu, et c'est ce qui a fait, donc c'est ce qui faisait même à l'époque que notre pays, l'ex-Zaïre, l'actuelle RDC, occupait toujours la deuxième position au rang mondial des producteurs d'huile de palme, juste après l'Indonésie qui occupait la première position.
Et c'est tout?
Oui, et aussi sans oublier les problèmes de santé, surtout à cause de l'enclavement de certains coins. Voilà Thérèse.
Merci beaucoup Fabien pour toutes ces informations et bonsoir à Kikwito dans les Bandundu.
Bonsoir Thérèse, chez vous à Kinshasa.
Oui, Monsieur Denis Impiti, on vient de nous décrire un peu la situation au Bandundu et elle est autant dégradante comme partout ailleurs au Congo. Mais est-ce qu'il y a autre chose, autre problème qui n'a pas été épinglé, que vous connaissez et qui concerne votre province?
Oui, à part ce que Fabien venait de donner, il faut citer aussi le problème de scolarisation, il est difficile, les enfants. Ah. Et je crois qu'il a parlé de l'accès difficile à l'eau potable, à l'électricité, et praticabilité des routes. Et il y a aussi accès difficile à la terre cultivable parce que c'est un domaine réservé à certaines concessions qui ont acheté des grandes concessions et qu'on n'arrive pas à accepter des communautés locales à aller pratiquer l'agriculture. Et ailleurs, ce sont des chefs de terre qui n'arrivent pas aussi à accorder les portions de terre aux paysans pour aller cultiver. Et il faut aussi ajouter dans le nord de la province, dans les Maïndombé, un problème qui a été cité à la télé provinciale du DCRP, pour la réduction de la pauvreté, il y a un problème qui se pose au nord, c'est la marginalisation des peuples autochtones, ce qu'on appelle des pygmées. Donc, aussi, il faut citer un problème jusqu'alors. On ne sait pas ce qu'il y a comme richesse dans le sous-sol de Bandundu. Il n'y a pas de prospection, on ne sait pas quelles sont les richesses. Donc, à part ce que Fabien a cité, je peux ajouter celle.
Oui, donc c'est autant de problèmes, mais qui également ne laissent pas indifférents les habitants même des Bandundu, à qui nous avons également tendu notre micro et que je vous invite à suivre.
Vous savez, la province de Bandundu, c'est une province purement agricole. Et les villageois ont des difficultés pour évacuer des produits qu'ils produisent dans leurs champs. Pour moi, d'abord, prioritairement, ce sont ces deux secteurs, l'électrification de la province et les routes pour l'évacuation des produits agricoles.
À mon sens, je pense dans les sociales, par exemple, dans l'enseignement, dans la santé, et aussi penser à redynamiser les secteurs économiques, parce que c'est une province agricole. Si on peut revoir un peu les histoires de usines de production d'huile de palme, parce que c'est là où nous paraissons plus forts et c'est là où on peut produire quelque chose d'intéressant pour minérer les autres. En dehors de cela, il faudra que l'on arrive à penser à électrifier cette ville, parce que c'est le grand problème qui fait que cette ville ne se développe pas. Il n'y a pas du courant, il faudra qu'on fasse un effort, parce que c'est un facteur de développement.
Oui, voilà, monsieur Denis Impitis. La population parle des problèmes qu'elle rencontre même dans sa vie quotidienne au Bandundu. Alors par rapport à cette situation, de quelle façon, selon vous, les députés provinciaux de la province du Bandundu pourraient intervenir pour le développement de cette province?
Oui, les députés, ceux qui sont candidats aujourd'hui, doivent savoir qu'ils ont une lourde responsabilité dans le démarrage ou bien dans le développement de cette province. Parce que avec tous les pouvoirs, comme je disais tout à l'heure, qui leur est donné par la loi, ils doivent être capables de prendre des mesures efficaces pour l'encadrement de cette population. Et ils doivent être capables aussi de voter des budgets qui répondent aux priorités de la population. Et surtout être capable de contrôler rigoureusement les institutions et les services publics de l'État dans la province. Autrement, s'ils ne savent pas remplir ces devoirs-là, ce que tout le monde attend dans la province de Bandundu, alors ça sera un recommencement et il n'y aura pas de changement dans la province de Bandundu. Donc la population de Bandundu est en train d'attendre de cette institution provinciale qu'on va mettre bientôt en place beaucoup de choses pour le changement dans la vie de la population de Bandundu.
Oui, on sait que la constitution actuelle reconnaît à chaque province la prérogative de retenir à la source 40% de ses recettes pour résoudre les problèmes locaux. Et cet argent sera géré par l'exécutif provincial sous le contrôle de l'Assemblée provinciale. De quelle façon, selon vous, les députés qui seront élus peuvent capitaliser cela et amener le Bandundu à se développer?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure là, avec ces recettes-là provinciales, issues de 40%, les députés doivent être capables de voter des budgets, des budgets qui peuvent amener la population de Bandundu à lutter contre la pauvreté et aussi à un contrôle, surtout si l'argent n'est pas bien géré par le gouvernement provincial, alors on va affecter ça à n'importe où, à n'importe quoi. Alors, la population de Bandundu ne pourra pas en tirer profit.
Oui, Monsieur Denis Impiti, nous parlons donc des recettes, mais voyons maintenant des recettes de quelles ressources. Et je vous invite ici à suivre notre confrère Freddy Lufuluabo, qui nous dit que comme la plupart des provinces du pays, les Bandundu disposent de beaucoup de ressources naturelles pour faire face à ces problèmes locaux. Bonsoir Freddy, est-ce que vous pouvez nous épingler quelles sont ces ressources-là?
Bonsoir Breuil. Le Bandundu est une province essentiellement agricole jouissant des climats équatoriaux au nord et tropical sur le reste de la province. Elle est reconnue pour la production d'huile de palme. Le sol riche du Bandundu produit également le maïs, le manioc, le riz, l'arachide, le millet, ainsi que le café. À cela s'ajoutent les chenilles et les champignons. autre atout. Ce sont les grands espaces de savane propices à l'élevage de gros bétail, les forêts claires du côté de Fechi et Kayemba, ainsi que la forêt équatoriale. Outre l'exploitation du bois, le Bandundu peut également compter sur ses nombreux sites touristiques, comme les chutes de Kakobola et de Mabengi Yalukwila, pour mobiliser ses recettes. Dans cette province, il y a beaucoup de cours d'eau, dont la plupart sont navigables et poissonneux. Les rivières Kasai, Kwango, Kwilu et Wamba s'ajoutent au lac Maïndombe et au fleuve Congo. On trouve aussi du diamant dans le Bandundu, précisément à Kayemba et à Kasongolunda, ainsi que du pétrole non encore exploité dans la forêt équatoriale.
Merci Freddy Lufuluabo. Monsieur Denis Impiti, donc nous venons de suivre là quels sont les atouts même de cette province, donc la province du Bandundu. Que peut-on par exemple faire pour rentabiliser le secteur de l'agriculture dans la province du Bandundu? Parce que on dit que l'économie même ou les richesses même du Bandundu reposent sur cette agriculture-là.
Oui, pour l'agriculture qui est un secteur important de la province de Bandundu, il faudrait d'abord qu'au niveau de cette assemblée provinciale qui est de lois qui stimulent la production interne, qui motivent les initiatives privées et même des actions génératrices de revenus à partir des communautés villageoises, des communautés paysannes. Et il faut aussi, pour l'agriculture de Bandundu, pour développer l'agriculture de Bandundu, il faut trouver avec le budget que l'État aura, l'État provincial, si vous voulez, devra mettre en place des moyens matériels, par exemple, pour stimuler cette population-là. Parce que maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de matériel. Le matériel est resté rudimentaire jusqu'à ces jours. Et il n'y a pas une grande productivité. Aussi, à part le matériel, il y a un problème de semences qui se pose, un problème de semences, surtout des semences améliorées. Donc si au niveau de l'État, on peut arriver à trouver solution à ces problèmes d'agriculture, au niveau des semences, au niveau du matériel, et aussi, pour revenir à ce que nos amis là ont dit, problème de route, parce qu'il y a des lieux où la population produit, mais la production, on ne sait pas l'évacuer, on ne sait pas commercialiser, parce qu'il y a enclavement. Les routes sont vraiment abîmées, alors il faut aussi réhabiliter ou bien entretenir toutes les routes des dessertes agricoles de la population de Bandundu, de la région, de la province de Bandundu. Si ces facteurs-là, on tient compte de ces facteurs-là, on peut dire que l'agriculture au Bandundu pourra jouer réellement son rôle comme elle l'a joué dans les temps.
Je vous propose de suivre la proposition d'un habitant du Bandundu qui estime que il y a une façon de rentabiliser ces secteurs, surtout que l'agriculture est la source des revenus d'un grand nombre des habitants de cette province, et nous pouvons le suivre.
Je pense que tout le monde comprend très bien que Bandundu est une province à vocation purement agricole. J'ai beaucoup voyagé, sillonné la province, je me suis rendu compte que les villageois produisent beaucoup de manioc, beaucoup de maïs, bien d'autres produits agricoles, qui restent dans leur grenier, à la merci des insectes. Alors, eux-mêmes, ils restent très pauvres, et vivent malheureusement. Alors, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, je pense leur construire des pots dans des villages où ils peuvent stocker leurs produits. La réhabilitation des infrastructures de base telles que les pistes des serres agricoles. Et de cette façon-là, à mon avis, je crois que on pourra réellement lutter contre cette pauvreté. Ça pourra permettre aux villageois de rehausser tant peu soit-il leur niveau de vie. Les villageois, ils vivent difficilement. Vous vivez dans des villes, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les villages. Ces gens-là, ils souffrent énormément. Ce sont des hommes comme nous, comme vous, comme en fait, ils méritent d'être bien considérés aussi, à voir ce qu'ils produisent. Ils concentrent beaucoup d'efforts pour produire le manioc, le maïs et tout ça. Après, c'est à la merci des insectes. Et eux-mêmes, ils vivent malheureusement. On avait des routes. Les véhicules peuvent aller, et pour acheminer ces produits vers les centres de consommation. Et je pense que cela pourra être chose heureuse pour vous qui vivez en ville, pour nous et pour eux également.
Voilà, Monsieur Denis Impiti, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de cet habitant du Bandundu?
Il a vraiment raison. Ce sont des problèmes qui se posent dans les milieux paysans du Bandundu. On produit, on ne sait pas vendre, mais je peux ajouter même à cela, si on sait, même là où il faut vendre, mais ceux qui viennent acheter auprès des paysans, c'est à des prix dérisoires. Soit ce sont des camionneurs qui en profitent. Vous imaginez que un camion qui va dans un village et qui charge pour Kinshasa, un camion de 8 tonnes avec 120 sacs, par exemple, de manioc, il faut se partager cette quantité-là d'un paysan ou bien d'une communauté paysanne en deux. Les camionneurs à 60 sacs et le groupement paysan 60 sacs. En plus, il faut payer aux camionneurs, aux chauffeurs, un bouc plus 10% de tous les produits chargés à l'équipage. Donc ce sont là des problèmes énormes que la population est en train de connaître.
Oui,
rapport à ça,
oui.
Il faudrait que l'État pense aussi à organiser le système d'évacuation comme à l'époque. Au Bandundu, les régimes, les réseaux hydrographiques est dense et navigable. Si on peut avoir, comme à l'époque, des bateaux qui peuvent évacuer tous ces produits-là, je crois que le problème de transport ne va pas poser beaucoup de difficultés auprès des paysans et les paysans pourront profiter de tout ce qu'ils font pendant toute une année.
Donc vous parlez là des routes de dessertes agricoles, mais est-ce que le 40% des recettes revenant à chaque province seront par exemple suffisantes pour résoudre les problèmes posés dans votre province?
40% des recettes pour une province où on a plus de 55 000 km de routes de dessertes agricoles, je crois qu'il faudra du temps. Je crois que ça ne va pas suffire, il faudra recourir très souvent aussi à la caisse de péréquation au niveau du gouvernement central.
Merci donc M. Denis Impiti. Dans ce studio également, nous sommes avec Mgr Simon-Pierre Iannagno, qui lui est vicaire général du diocèse de Kasongo et il intervenait dans la première partie de cette émission pour le compte de la province du Maniema. Donc vous avez également suivi le problème qui se pose même au Bandundu, votre réaction?
Oui, je salue d'abord mes frères du Bandundu, spécialement Monsieur Denis. Je trouve qu'il y a une coïncidence, le Maniema et le Bandundu sont au fait deux provinces à vocation agricole. Le Maniema a peut-être cet avantage, un plus, qu'il y a aussi des mines, mais on n'a jamais construit un pays à base des mines. Le pays se développe essentiellement à base de l'agriculture. Et donc, à ce que les autres ont dit au Bandundu, je crois que, en fait, il faut un gouvernement, il faut une politique national et provincial de gouvernement. Je répète, il y a la cause principale, il y a les conséquences. Tout ce qu'on peut citer comme piste de dessert agricole, la situation des paysans qui sont spoliés par les camionneurs, c'est parce qu'il n'y a pas une politique spécifique du gouvernement. Et le jour où il y en aura, je crois que les effets vont disparaître.
Oui, l'habitant de Bandundu que nous avons suivi qui disait qu'il faut plus focaliser des efforts pour essayer un peu d'aider tous ceux-là qui vivent dans des villas, dans des territoires, pour qu'ils puissent arriver à évacuer les produits agricoles. Est-ce que c'est le même problème également au Maniema?
Oui, c'est le même problème avec la différence, et moi je préfère insister sur ça, c'est qu'on ne doit pas dire aider dans le sens d'être pitoyable, il faut faire la charité. Non, c'est d'abord question de justice. Les paysans travaillent tellement dur, ils essayent par leurs propres moyens, sans appui du gouvernement, de faire tout pour faire étudier les enfants, manger et se nourrir et vêtir, au point que maintenant il s'agit ici de dire on doit rendre justice à ces paysans. Quand on fait une route pour les paysans, évidemment, c'est une question de justice. Et si le Maniema aujourd'hui est dans la situation qui est la sienne, c'est parce que justement, il n'y a plus de route. Nous avons été coupés par Lubumbashi. Pendant des années, le train ne fonctionnait plus. Et même s'il a repris aujourd'hui, il arrive très lentement et rarement. Il en est de même aussi des routes de dessertes agricoles. Rien que Kasongo-Kabambare, vous avez 230 kilomètres. Et on ne sait pas faire ça facilement.
Parce que vous avez l'impression que les villes sont plus modernisées alors que les villages restent en arrière?
En fait, ben, ce n'est pas seulement une impression. Ça veut dire que le grand problème du Congo, c'est que les paysans on dirait, ne fait pas partie de la vision globale de la nation. Mais ce qui se passe avec Kinshasa, c'est quoi? Vous avez 8 millions d'habitants. Le gouvernement doit chaque fois tirer donc des investisseurs, il faut acheter de la nourriture, parce que s'il n'y a plus d'impiode sur le marché ou des riz, il y aura émeute. Alors, ça fait que le gouvernement s'endette éternellement, alors que s'il y avait des routes, nous qui sommes dans les villages, nous pourrions aider le gouvernement à résorber cette question de nutrition au niveau des grands centres.
Oui, Monsieur Demi Impiti, vous avez également suivi un peu le problème du Maniema. Est-ce que il y a des similitudes avec ce que vous vivez au Bandundu?
Madame, je dirais que le problème du paysan congolais est le même partout au Congo. Et le problème qui se pose au Maniema, à part le climat, la végétation, nous avons le même type de climat, le même type de végétation, nous avons les mêmes problèmes pour les paysans. Les difficultés sont les mêmes. Donc les paysans continuent à souffrir, ils travaillent, et à la fin de l'année, à la fin d'une année, ils ne récoltent rien. Et cela, c'est ce que je disais tout à l'heure là, c'est la responsabilité de ce gouvernement que nous allons mettre en place, et surtout au niveau de la province, avec le gouvernement provincial et avec l'Assemblée provinciale, donc qui ont un rôle, un grand rôle à jouer dans le développement de nos paysans, de nos milieux ruraux. Sinon, nous avons le même problème.
Oui, alors nous allons passer aux opinions des auditeurs, mais malheureusement, nous avons eu un problème avec les sites qui est en train d'être arrangé. Donc avant que tout ne soit bloqué, nous avons quand même pu récupérer deux opinions des deux auditeurs que je vais vous lire ici et auxquelles vous allez réagir. La première opinion vient d'Alain Zadi de Lubumbashi au Katanga, qui estime que les provinces du Bandundu et du Maniema doivent surtout penser à la construction de routes, car cela est capital pour le développement d'une province. Et l'autre auditeur, il s'appelle Christian Moussengue, il nous écrit du Sud Kivu. Pour lui, les députés provinciaux sont les gérants des provinces. Il faut donc les voter en tenant compte de l'intérêt de nos provinces. Monsieur Denis Impiti, qu'est-ce que vous pensez de ces deux opinions de nos auditeurs?
Madame, ils ont pratiquement raison. Parce que s'il faut prendre au Bandundu, les résultats de l'atelier provincial sur la réduction de la pauvreté, quoi, le problème des routes revient en première position. Oui. Donc il y a d'abord un problème de route, et quand les routes sont entretenues dans une province à vocation agricole, il faut que les routes soient entretenues. Monsieur là du Katanga a bel et bien raison. Et aussi, pour les députés provinciaux, ils ont un grand rôle. Je le dis encore, tout pour le développement de ces pays, avec la constitution que nous venons de voter, qui donne une grande responsabilité aux entités provinciales, les entités provinciales qui sont décentralisées. Alors, les députés provinciaux ont un grand rôle à jouer. Comme je disais tout à l'heure, ils doivent bien contrôler, ils doivent bien voter, ils doivent vraiment être des hommes capables, compétents de prendre des mesures efficaces pour l'encadrement de cette population.
Oui, et voyons maintenant ce que pense Mgr Simon-Pierre Iyanagno de ces opinions que nous avons tantôt là lues.
Oui, je crois que le jeune qui a insisté, Alain qui a insisté sur les routes, hein, je crois qu'il a compris le problème. Moi, j'ajouterais que route ici, pour moi, signifie moyen de communication. Parce qu'il n'y a plus que les routes. Il y a aussi tout ce qu'il y a comme téléphone, Internet, qui devrait permettre aux paysans de pouvoir s'ouvrir au monde. Et par rapport à la responsabilité des députés provinciaux, il en va évidemment de l'avenir même de la province. Parce que si les élus ne gouvernent pas comme il se doit, nous avons beau mettre sur pied des programmes de développement, ils ne pourront jamais aboutir parce que c'est la politique qui décide.
Merci donc à nos invités. Nous étions dans ces studios avec Mgr Simon-Pierre Iyanagno, vicaire général du diocèse de Kasongo, qui intervenait pour le compte de la province du Maniema. Et sur la ligne téléphonique en direct de Kikwit, nous étions avec Monsieur Denis Impiti, secrétaire exécutif du conseil régional des ONG de développement du Bandundu. Il intervenait donc pour le compte de la province du Bandundu. Nous disons au revoir à tous les auditeurs qui suivent cette émission en ce moment. Nous leur souhaitons également bon week-end. Mais entre-temps, cette émission sera rediffusée demain matin à 5h30 heure de Kinshasa. Elle sera également disponible sur le site internet www.radiookapi.net. Et prenez rendez-vous mardi prochain avec les enjeux des élections provinciales dans les provinces du Katanga et du Bas-Congo. Au revoir et à la semaine prochaine.